بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. شفاء الإسلام ندمان الله عز وجل توفيق والسداد والاستقامة والإخلاص la sincérité, la dévotion et par la suite la constance pour ces majalis, que toute la lumière qu'il y a dans la parole d'Allah Azza wa Jal, ben que cette lumière, inshallah, rejaillisse sur nous, que cette lumière pénètre nos cœurs. Jamais on ne se rapprochera d'Allah Azza wa Jal par une meilleure façon, par un meilleur moyen que par le kalamullah, par la parole d'Allah Azza wa Jal. Inshallah, ce soir on complète tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Ça fait 3 ou 4 séances qu'on dit inshallah on complète, mais à chaque fois on se rend compte de la richesse de chaque ayah, et ça c'est vraiment une mine d'or inépuisable. Vous pourrez assister à 10 durus de tafsir, de 10 shuyukh, de 10 enseignants différents, et vous trouverez toujours quelque chose qui se distingue dans chaque assemblée. Vous pouvez ouvrir à 10 livres de tafsir différents qui traitent du même verset, et en fonction des mufassirines, on trouvera toujours un nectar caché, on trouvera toujours une information qui touche notre cœur. Et d'une façon générale, d'une manière générale, lisez un verset avec sa traduction en méditant sur le sens du verset, relisez-le le lendemain, relisez un troisième jour, à chaque fois on trouve quelque chose qui nous conforte de notre foi. À chaque fois on trouve une réponse à nos questionnements, à chaque fois on trouve une orientation à nos doutes. Parfois qu'on a des doutes, on trouve le chemin tracé. À chaque fois on trouve le tama'nina, la tranquillité, l'apaisement, et on sent le nour qu'il y a dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Si je vous donne un livre, hein, quel est le livre qui a été le plus lu par les Français depuis 20 ou 30 ans? Il paraît que c'est Le Petit Prince. Il paraît, d'accord? C'est pas celui qui se mange là, hein, au chocolat noir ou au lait aux noisettes. C'est Le Petit Prince. De qui? Exupéry, bien sûr. Si moi, personnellement, j'ai dû le lire deux fois ou trois fois durant la scolarité. Si je vous donne à lire Le Petit Prince, d'accord? Vous lisez une fois. Et puis, la semaine d'ensuite, je vous dis, relisez. On va lire une deuxième fois, une troisième fois. À un moment donné, est-ce qu'on trouve encore la motivation pour lire? Ah ben, Allah. On finit par se lasser de n'importe quel écrit. On finit par se lasser de n'importe quelle œuvre littéraire, cinématographique, quelle que soit la forme d'expression. Ça peut être de l'art, ça peut être de la littérature. À un moment donné, on se lasse si c'est la même chose. Mais la parole d'Allah Azza wa Jal, vous avez complété « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ » vous redémarrez « Al-Baqarah ». Jamais le cœur d'un croyant ne sera lassé de lire le Coran. Et c'est faux de penser que c'est parce qu'on ne comprend pas qu'on peut enchaîner la lecture. Aucunement. Même, on va dire que, bien au contraire, celui qui comprend, celui qui a une approche de la langue, qui a une approche du tafsir, subhanallah, c'est lui qui trouve encore plus de motivation pour lire sans arrêt, pour enchaîner les mêmes versets. Par exemple, le fait de lire Yassine tous les matins, le lire Al-Mulk le soir, Al-Waqi'a. Est-ce qu'une personne, à un moment donné, s'est dit que je suis fatigué de lire la même chose, Al-Mulk, on va changer de sourate? Non, parce qu'il y a quelque chose qui est compatible avec le cœur. Le cœur de l'homme trouve sa voie dans la lecture du Coran. Tout comme, là on passe à un autre sujet, totalement différent, mais ça on a l'habitude de ce genre de grand écart. Une personne se rend à la Mecque, à Makkatul Mukarrama ou à Al-Madina Al-Nabawiyya. Une personne va faire le Hajj, idéalement, d'accord? Si une personne était au Hajj en 2006, il était au Hajj l'année dernière, on lui dit, est-ce que tu serais d'accord d'y aller encore une fois? Il va dire oui. Il s'est dit, ben, est-ce que tu signerais pour 20 Hajj d'affilée pendant 20 ans? Qui refuserait? Mais si je dis à Nabil, par exemple, voilà, tu vas en Malaisie, dans un hôtel 5 étoiles, avec tout ce qu'il y a, buffet, tout ce qu'il y a à manger, parce que manger c'est important, D'accord. Un mois après, on te paye un billet, retourne là-bas, repart encore, fait 15 jours. Il est content, le patron est gentil, encore plus de congés. Un mois ensuite, on t'envoie de nouveau. À un moment donné, on est lassé. Que ce soit la Malaisie, Maurice, New York, quel que soit l'endroit, on finit par se lasser si c'est le même endroit. Si c'est le même endroit, l'homme se lasse. Mais Makka et Al-Madina, une personne pourrait y aller tous les mois. Jamais le cœur de l'homme ne se lasse de ces lieux saints. Et ça, ça a été cité par, je n'ai plus son nom en tête, un grand savant qui a écrit un livre, Tarikh Makkah, très connu, mais son nom ne me revient pas, si je ne me trompe pas, c'est ce livre même. Et il a expliqué qu'une des spécificités de Makkah, un des miracles des deux villes saintes de Makkah et de Madina, c'est que l'homme, le mu'min, quand il quitte ces deux villes saintes, il a le cœur gros. Et si il avait la possibilité de revenir où? Quand la personne quitte, il planifie déjà un prochain voyage, un retour vers cet endroit. Ce qui est unique dans les lieux géographiques, c'est-à-dire le cœur de l'être humain trouve une compatibilité, un apaisement dans les lieux saints. Le cœur de l'homme, le cœur du croyant, trouve la lumière et trouve ce qui est compatible avec sa foi dans la lecture du Coran. Donc, ikhwani fillah, chaque verset est porteur d'une lumière qu'on ne peut pas imaginer. On a juste à réaliser, pas être persuadé, on est persuadé, on a juste à réaliser qu'il s'agit là de kalamullah, bas, il s'agit là de la parole d'Allah Azza wa Jal. Sachant que c'est la parole du Seigneur des mondes, il est tout à fait normal que le cœur de l'homme s'y attache et puise la lumière qu'il y a de ces versets, et c'est une lumière qui nous permet de nous guider. Quel que soit le verset, si on le prend, c'est un guide pour nous jusqu'à la mort. Quel que soit le verset. D'où l'importance d'avancer, d'apprendre, de cumuler les versets et de les comprendre pour trouver notre voie. Surtout à l'époque, l'époque à laquelle nous vivons, avec les difficultés, les fitanes, tout ce qu'il y a comme complications quand on est croyant, on a vraiment besoin d'une lumière. Et cette lumière-là, on ne peut l'avoir que par le biais du Coran. On peut écouter des gens parler, des gens nous encourager ou tenir certains discours, mais si on n'a pas une connexion avec le Coran, on ne voit pas la lumière qui émane du Coran, il y a des fois on risque de se sentir mal. J'ai rencontré une personne hier qui est en phase de se convertir à l'islam et qui a un peu de doute. Il m'a dit qu'il est en colère contre la religion musulmane. Je l'écoute. Je dis pourquoi? Elle dit tout ce qui se passe dans le monde, les attentats, ça me freine, ça m'embête, ça m'énerve et tout et tout. Dire que si on se limite à ce qu'on entend, à ce qu'on voit, alors si on pour être plus clair, si on se limite à ce qu'on veut nous faire voir, à ce qu'on veut bien nous faire entendre, ben c'est sûr que, au fur et à mesure, on risque pas de douter de la religion, mais de sentir un certain malaise. Et ce malaise-là, il faut absolument le combler. Cette foi, on ne peut pas se permettre de l'avoir diminuée. Il faut le renforcer, le colmater, le fortifier. Et cela, c'est uniquement par le biais du Coran. Ce n'est pas pour rien si le prophète m'a dit « Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada ». Et « abada », ça veut dire « jamais ». Kitabullahi wa sunnati. Ou kama qala alayhi salatu wa salam, notre prophète nous rappelle, et on est en train de revoir ça encore. Aujourd'hui, on prépare les cours pour les enfants de demain. On est en train d'étudier le Hajjat al-Wada, le serment d'adieu, le dernier discours du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les points de le serment d'adieu, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle à l'ensemble de la Oumma qui est présent lors du Wukuf Arafat, lors du Hajj, que je vous ai laissé ces deux choses. Je vous ai légué la parole d'Allah et ma Sunna. Et donc, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que si vous restez accroché à ces deux choses, jamais. Et le terme abada, ça nous intéresse. On parlait de le khutbah de Jum'an aujourd'hui, de la notion de temps. La notion de temps, on a vu, ça égare complètement ceux qui n'ont pas la foi, mais le mu'min, il s'accroche à sa vision du temps en fonction de son iman. Et quand le prophète te dit « jamais », ça c'est important. Tout comme lorsqu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle, lorsqu'Allah Rabbul Izza nous informe de la beauté du paradis, « ma la » عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Ce qu'aucun œil n'a jamais vu, aucun oreille entendu, ni même aucun cœur ne peut imaginer, c'est-à-dire jamais, de jamais, de jamais, un homme, un être humain ne peut concevoir. Et quand Allah te dit que c'est impossible, et quand le prophète alayhi salatu wa sallam nous informe que c'est impossible, c'est-à-dire qu'on ne sera jamais égaré, on y croit dur comme fer. Parce que les termes sont là, il représente ce qu'il représente. Quand Allah te dit, il est impossible que quelqu'un puisse imaginer, puisse voir l'équivalent de la beauté ou entendre l'équivalent de ce qu'il y a dans le paradis, on est persuadé. Mais pareil, on doit être persuadé, jamais on ne sera égaré si on reste accroché à la parole d'Allah et à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pouvoir apprendre un petit peu les versets, étudier, comprendre, Wallahi l'azim, c'est un ni'ma, c'est un bienfait de la part d'Allah. Qui que ce soit, le mudarris, le fundi, un tel ou le cheikh ou le mufti, peu importe la personne, même si c'est un contact direct par audio ou parce qu'on peut lire les livres et ainsi de suite, subhanallah, gardons un contact avec le Coran. Lecture, tilawatan, mais également étudier et tadabbur, comprendre pour mettre en pratique. C'est pour ça qu'on devait en parler aujourd'hui dans le mois, pas dans le mois pour la prêche du vendredi, mais le temps était un petit peu limité. Qu'on fasse le niya, l'intention, que notre lecture du Coran durant ce mois béni, ça doit être une lecture intelligente. Bien sûr, la lecture pour compléter le khatm al-Qur'an, c'est une des meilleures actions qu'on peut accomplir durant ce mois béni. Mais essayons de monter un petit peu le niveau. Essayons de monter un peu le niveau spirituel, en même temps qu'on lit, il y a maintenant, mashallah, l'association Tawfiq, ils ont fait un travail appréciable avec la calligraphie des mushafs qu'on a l'habitude de lire. La calligraphie, si je ne me trompe pas, s'appelle Uthmani, les mushafs à 13 lignes. Il y a la traduction. Donc, on lit une page, on lit un verset, on essaie de lire la traduction. Maintenant, si on veut monter encore un peu de niveau, on essaie de se procurer les tafsirs. Ça, on le répète à chaque fois, mais c'est vraiment important. C'est vraiment important. Celui qui arrive à se connecter au verset du Coran, à leur sens, à leur traduction, mais avec ça, le sens, subhanallah, c'est un trésor inestimable. Et c'est quelque chose qui va nous aider spirituellement, qui va nous aider dans les situations de difficulté, qui nous permettra de voir la lumière, qui nous permettra d'être ferme dans les bonnes actions et de ne jamais lâcher prise, qui nous permettra de rester ferme face au péché et de ne jamais céder, de ne pas être piégé par les waswasa, les insufflations du diable. Vous savez pourquoi? Parce que le Coran est une lumière, certes, mais si tu varies la lecture des versets et que tu finis par parcourir plusieurs chapitres, ben tu as des versets sur la vie, les bienfaits. On a des versets sur Sakaratul Maut. On a des versets sur la mort, sur la tombe, sur les anges dans la tombe. On a des versets sur la résurrection. On a des versets sur le Hissab, les comptes. On a des versets sur le grand rassemblement. Je ne dis pas dans l'ordre, bien sûr. On a des versets sur la balance, la pesée des actions, sur le Sirat, sur la description du paradis, la description de l'enfer. Imaginez que quelqu'un a cumulé toutes ces informations. Imaginez que quelqu'un a lu les tafsirs concernant ces descriptions et que ces paroles-là, en faisant doigt qu'Allah fasse entrer ces paroles de nos cœurs et que la personne l'a vraiment intégrée dans son cœur, comment voulez-vous que quelqu'un qui a un tel éventail de connaissances religieuses, aussi variées sur tous ces thèmes, comment voulez-vous que cette personne sombre dans le péché ou succombe aux doutes ou aux pièges de Shaitan ou à Swassa, jamais de la vie? Parce que son corps est renforcé par la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc, ikhwani fillah, on essaie d'améliorer notre relation avec le Coran durant ce mois béni. En plus de lire, on essaie de tirer un temps. Maintenant, si on a 60 minutes, je dis un chiffre, hein, si on a l'habitude de consacrer 60 minutes de lecture du Coran, si on ne veut pas être ralenti, on va dire, mais je mesure les termes de notre Khatm al-Quran, on craint de ne pas compléter un Khatm al-Quran en un mois, ben dans ce cas, on se dit 45 minutes de lecture habituelle et 15 minutes d'étude des versets. Et ce sera déjà un premier pas. Et à chaque fois qu'on démarre la lecture, avant qu'on commence à lire, nous demandons, nous faisons les doigts qu'Allah nous fasse comprendre, nous permet subhanallah, de voir la lumière et que l'enseignement des versets pénètre nos cœurs et qu'on puisse les mettre en application dans notre vie. On fait ce niya, inshallah, durant ce mois béni, qu'Allah nous accepte. Donc on avait dit qu'on doit compléter tabarakallali, inshallah. On a lu le verset 28. Ben, les trois derniers versets, en fait 28, 29 et 30, on ne récapitule pas, on ne revient pas sur ce qui a été dit l'autre fois, parce qu'en général, c'est ça qui nous fait prendre la moitié du dars. Dit que vous ensemble, traduction un peu approximative, que vous ensemble, qu'Allah me fasse périr, ainsi que ceux qui sont avec moi, ou qu'il nous fasse miséricorde. Qui protégera alors les mécréants d'un châtiment douloureux? Dans ce verset, Ibn Kathir, rahimahullah, explique donc lorsqu'Allah Azza wa Jal dit, à chaque fois c'était pareil, qu'il dit, mais Allah Rabbul Izzat demande à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à qui? À toutes les personnes qui sont en face de lui. On est à une époque où les gens l'interpellent. Il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des gens qui testent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui mettent en doute sa parole, qui essaient d'argumenter, qui demandent des preuves, qui, à un moment donné, se moquent de lui, le prennent à la dérision et considèrent ses croyances sur la vie après la mort comme quelque chose de farfelu complètement. Et ça attriste le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des fois où il sent les limites, il réalise que la guidée n'est pas de ses mains. Et Allah Azza wa Jalla lui rappelle que la guidée n'est pas de ses mains. Ma alayka illal balar, il doit juste propager et la guidée dans les mains d'Allah. Il y a des gens qui trouvent la guidée, il y a des gens qui ne trouvent pas la guidée parce que leurs cœurs parfois sont enflés d'orgueil, de fierté. Même s'ils sentent la vérité, ils veulent rester sur leur statut. Donc Allah Azza wa Jalla demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ces mouchriquines qui ont une haine à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont la haine à l'encontre de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'encontre de chaque personne qui a lu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, même si ces personnes font partie de leur tribu, font partie de leur propre famille. Donc, c'est totalement incohérent. Ils ont rompu les liens de sang parce que ces personnes ne voulaient plus se prosterner devant des pierres, ne voulaient plus se prosterner devant le soleil ou être superstitieux, avoir des croyances qui vont dans tous les sens, et ils voulaient adorer uniquement Allah. Aj'al al-alihata ilahan wahida. C'était là la grande interrogation des mouchriquines. Comment est-ce qu'il peut réunir toutes ces divinités en un seul Dieu? Ils ne pouvaient pas accepter ça. Donc, dans cette situation extrêmement tendue, le prophète alayhi salat wa salam savait que ses ennemis souhaitaient sa destruction et la destruction de l'ensemble des croyants. Et ils vont mettre ce désir en application, différentes occasions, différentes batailles, où ils vont essayer d'encercler, de lutter, d'essayer de détruire l'armée des musulmans, d'exterminer même la présence de l'islam. Et là, dans ce verset, notre prophète alayhi salat wa salam doit dire à ces personnes, voyez, ya Muhammad, qul ya Muhammad liha ula il mushrikina billah, dis au Muhammad à ces personnes qui ne croient pas en Allah, ra'aytu min ahlakani Allahu wa man ma'ya aw rahimana, faman yujiru al kafirina min adhabin alim, qu'Allah, imagine, deux cas de figure, que vraiment, comme vous le souhaitez, qu'on soit détruit, ou alors qu'on ne soit pas détruit et qu'Allah ait pitié de nous. Dire, vous souhaitez quoi? Vous souhaitez, dit au mouchriquin, vous souhaitez notre perte. Que nous soyons perdus, qu'il y ait une destruction qui s'abat, ou un malheur qui s'abat sur nous. Ou alors, qu'il nous arrive strictement rien, et qu'on reste sous la protection d'Allah, ça vous fait quoi? C'est le sens du verset. Ça change quoi dans votre vie? Bien au contraire, ça ne changera rien, et ça ne vous protégera de rien. Et faites attention. خَلِّصُوا أَنفُسَكُمْ أي خَلِّصُوا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Qui protégera alors ces mouchriquines d'un châtiment douloureux? Hey, خَلِّصُوا أَنفُسَكُمْ. Au lieu de penser à tout ça, protégez-vous, prenez les précautions, changez votre vie, sachez que فَإِنَّهُ لَا مُنْقِدَ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا التَّوْبَ وَالْإِنَابَ وَالرُّجُوعِ إِلَى دِينِ. Il n'y a rien qui ne vous sera profitable si ce n'est le retour vers Allah et le fait de lui demander pardon. C'est-à-dire que ces personnes étaient animées d'une haine et l'exprimaient verbalement, l'exprimaient à travers leurs idées, l'exprimaient à travers le décret, à travers leurs paroles. On le sait, ils traitaient le prophète de sorcier, de menteur, ainsi de suite, à travers leurs décrets, par exemple. Lorsqu'ils ont décidé d'isoler toute la tribu du prophète alayhi salat wa salam, plus personne, le boycott, on appelle ça le boycott, plus personne ne pouvait faire du commerce avec eux, ni acheter, ni vendre, et ils ont connu une situation extrêmement difficile. Donc cette haine se manifestait également à travers le décret, et également à travers leur façon d'agir, lorsqu'ils persécutaient les musulmans. Et on connaît l'histoire des premiers musulmans. Donc ils avaient une haine, et là le prophète fait comprendre à ces gens que c'est quoi votre souhait? nous voir détruire, nous voir complètement anéantis, mais que nous soyons anéantis, ou que nous restions en vie, et qu'Allah ait pitié de nous, et que nous continuions à avancer, vous, regarde ta personne, regardez vos personnes, qu'est-ce que ça changera à votre vie? Faites attention parce que ces situations que vous souhaitez, c'est pas ça qui vous rendra heureux, en ce sens. C'est pas ça qui vous sauvera. C'est pas que, comme vous nous voyez comme des ennemis, et le fait que nous soyons détruits, vous serez heureux et protégés aucunement. Ça ne changera rien. Vous devez changer vos vies de vote par vos propres mains. Khalisou anfusakum. Protégez-vous contre le châtiment qui vous attend. Rien ne vous sauvera si ce n'est le tauba, le repentir et le retour vers Allah et l'acceptation de sa religion. Wala yanfa'ukum. وَقُوعَ مَا تَتَمَنَّوْنَ لَهَا مَا تَتَمَنَّوْنَ لَنَا مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ. Et ce que vous souhaitez pour nous, en termes de destruction, de mal et tout ce que, toute l'expression de votre haine, لَا يَنْفَعُكُمْ, ça ne vous apportera rien. Que vos souhaits se réalisent ou non, pour vous, ça ne changera rien de votre devenir et de votre avenir là-haut. Le changement doit venir de vous-même par une prise de conscience et un retour vers Allah. Sawa, ça c'est Ibn Kathir, c'est pas le verset, tafsir sawa, azzabana Allah, ou rahimana, qu'Allah nous dé... Par qu'Allah, c'est pas le sens, on fait droit. Quel que soit le cas de figure, qu'Allah nous détruit, ou il ait pitié de nous, fala manasa lakum min nakalihi wa azabil alim, il arrête de dhalik, rien, cela ne vous sera d'aucune utilité. Alors, pourquoi est-ce qu'on... On s'attarde un petit peu sur ce verset parce qu'il y a quelque chose qui nous concerne directement. Vous voyez, on se plaint souvent, ces derniers temps, depuis ces dernières années, d'islamophobie, oui ou non ? C'est une réalité. Même si certains ne veulent pas reconnaître le terme, à la limite le terme, même s'il ne rentre pas dans le dictionnaire, c'est pas grave. De toute façon, il y a des mots stupides qui rentrent dans le dictionnaire. Si ce mot n'entre pas, c'est pas parce qu'il est dans le dictionnaire ou il n'y est pas que ça changera quelque chose. Même si également certaines personnes ne reconnaissent pas les douleurs, les difficultés, ce racisme qui avant était latent, maintenant qui s'exprime et qui est en progression, qui est parfois même devenu la norme. Donc on se plaint de ça. C'est tout à fait normal. Il y a un malaise, on sent, je ne parle pas d'ici, alhamdoulilah, Allah garde cette île sous sa protection et qu'Allah vienne en aide à n'importe quel croyant qui souffre dans le monde et si sa souffrance est due à son appartenance à l'islam, qu'Allah élève le grade de chaque personne qui subit quelle que soit la difficulté. Ça peut être un regard qui vous dévisage, un regard de dénigrement. Ça fait très mal ça, quelqu'un qui vous dénigre par le regard ou une parole. Il y a des fois où ils ne vous disent pas, mais entre ils parlent, ils vous laissent entendre des brides de paroles juste pour vous atteindre. Tout ça, ce sont des souffrances, mais ça c'est sharaf, ça c'est izza. Ça nous paraît blessant, mais c'est un grade exceptionnel que nous sommes en train d'obtenir auprès d'Allah. Nous vivons un petit pourcentage de ce que les sahaba ont vécu pendant le Ahd de Makki. Mais quand je dis un petit pourcentage, le mot petit aussi c'est trop fort. C'est incomparable avec ce que les sahaba ont vécu, mais ça nous donne un aperçu. Quand on voit Alou Yassir, tout le monde connaît l'histoire de Alou Yassir, ce jeune qui s'était converti à l'islam, et qui, mashallah, a pu convaincre ses parents qui étaient âgés, ils s'étaient convertis à l'islam. Et lorsque les mécréants à Mecca avaient appris leur conversion, ils les avaient attachés à des poteaux, ils les ont torturés jusqu'à la mort. Père, le papa, la maman, le fils, Al, c'est-à-dire la famille de Yassir, radiyallahu anhum ajma'in, ont été persécutés. Le prophète alayhi salatu wassalam passait et il voyait la famille de Al ou Yassir dans ses difficultés et qu'est-ce qu'il avait dit, une parole magnifique, sabran ya Al Yassir fa inna maw'idakum al janna, soyez patients ô famille de Yassir, sachez que votre rendez-vous, c'est-à-dire maw'idakum antum jami'a, le papa, la maman, le fils, tous ceux qui sont en train de souffrir, traversez ce moment, endurez avec patience cet instant difficile, votre rendez-vous c'est dans le Jannah. Ils ont eu la bonne nouvelle du paradis au moment où ils étaient persécutés. Et pour eux, cette parole du prophète alayhi salatu wassalam, ça va combler n'importe quelle souffrance. Parce que Nabiullah leur promet le paradis d'Allah Azza wa Jal. Que votre rendez-vous à vous tous, c'est-à-dire vous êtes en train de souffrir, mais vous allez vous retrouver dans le Jannah, de le paradis d'Allah Azza wa Jal. Ils ont donné leur vie Et ainsi que Bilal ibn Rabah, Soumaya, plein d'autres sahaba, hommes et femmes, des jeunes, des vieillards, ils ont souffert pour garder iman. C'est pas ce qu'on entend de nos jours que... Enfin bref, je ne vais pas entrer dans des discours politiques concernant la situation du monde, mais à Makkah, dites-moi, qu'est-ce qu'on reproche aux musulmans? D'être des terroristes? Du tout. Ils ne faisaient du mal à personne. Est-ce qu'il y avait une djihad à Makkah? Du tout. Udhina lilladhina yuqataluna. Et udhina lilladhina, qui me rappelle le verset? Udhina lilladhina. Biannahum dhulimu. Allah, à un moment donné, à Al-Madina, enfin, le verset n'est pas forcément pour Badr, mais pour Badr et Uhud, ils ont eu l'accord de leur Seigneur de lutter parce qu'il fallait quoi? Il fallait se défendre, il fallait résister. Lorsque l'armée des Mekois débarque et il encercle Madina, c'est ce qu'on enseigne également à d'autres classes d'enfants, la Sirat, c'est magnifique, dans Ghazwatul Ahzab, les Quraysh, Ghatafan, Quraïda et d'autres tribus de certaines confessions, ils vont faire bloc. Certains entourent Madina et d'autres font fitna dans Madina avec une tribu qui est en paix avec les musulmans afin que le danger soit autour et le danger naisse de l'intérieur et ce danger peut toucher les femmes et les enfants. C'est-à-dire ceux qui ne résistent pas, qui, c'est les faibles, les personnes qui ne sont pas là pour lutter dans une situation aussi dramatique. Les musulmans se devaient de résister. Ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Alors que pendant les 13 premières années à Makkah al-Mukarrama, jamais un musulman n'a levé la main sur un mécréant. Donc, ce qu'on reprochait à ces gens, c'était pas d'être des terroristes. C'était juste de croire à Allah, l'unique. Et ça, c'est la sunna d'Allah. Celui qui est dans la vérité, il est éprouvé. « Hasibanna soin yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanoun » Le fitna, ça vient avec la foi. Tu es croyant. Tu es en train de travailler un cheminement, un retour vers Allah. Que ce soit une personne qui n'est pas musulman, qui se reconvertit à l'islam, il va connaître des difficultés. Ou quelqu'un qui est déjà dans la religion, mais qui ne pratique pas et qui, du jour au lendemain, essaie de revenir vers la pratique, il va connaître des difficultés, des fitnas. C'est là la sunna d'Allah Azza wa Jal. Cette sunna pour notre communauté, même ceux d'avant, on a l'histoire très connue, l'exemple qu'on donne tout le temps d'Ashab al-Ukhdud. D'accord? Donc, ces personnes, ces musulmans ne faisaient du tort à personne. Malgré ça, les gens les détestaient. Et cette manifestation de haine avait atteint son paroxysme par les persécutions et les mises à mort comme pour Ali Yassin. Donc quand nous, on subit une remarque raciste ou on lit, allez bon on va dire là c'est vraiment le plus bas niveau, on lit un article sur internet ou des commentaires sur les réseaux sociaux, bon on va dire c'est presque du temps perdu, mais ainsi de suite, concernant l'islam et que ça nous touche, on sent quand on est touché intérieurement, on sent au niveau du cœur, il y a quelque chose, il y a une cassure, il y a une tristesse. On va dire que ça c'est un milliardième de ce que les sahaba ont pu vivre pendant ces 13 années consécutives, mais sharaf, ça c'est un grand honneur. Et donc si quelqu'un se fait interpeller, à La Réunion encore, alhamdoulilah, mais en Europe ou quel que soit l'endroit, à cause de sa barbe ou de son apparence de musulman, on va dire que ça c'est izza, même si ça nous fait mal, mais le jour de Qiyama, la récompense qu'on verra et qu'on trouvera pour avoir été patient dans la religion, c'est quelque chose qui est inestimable. Et c'est pour ça que le rang des sahaba nous a dépassé largement, mais au moins on peut faire un premier pas vers la patience pour rester ferme dans sa religion et la patience face aux attaques ou aux méchancetés des gens qui déteste l'islam. Et donc, ce verset nous conforte. Ça nous fait comprendre que, et on le savait déjà dans l'étude de la Sira, mais ce verset fait renaître cette pensée en nous que le prophète sallam lui-même était détesté des mouchriquines. On l'insultait. On avait essayé de le tuer à Mecca. À Madina, on avait essayé de l'assassiner. Le sahaba Abu Bakr avait été tellement adressé lorsqu'il a prononcé la première prêche de l'histoire de l'islam. Abu Bakr avait de grands cheveux avec des nattes un peu tressées. Il a été défiguré.
tellement l'avait frappé au visage qu'on ne pouvait même plus le reconnaître. Il arrive, Zalik, le nombre de sahaba qui ont été agressés physiquement, ça nous fait comprendre d'une certaine façon que ces gens-là, c'était les meilleurs des hommes. Malgré ça, ils ont été éprouvés. Donc, ça veut dire que si nous, on connaît des difficultés, déjà, c'est la sunna des prophètes et des proches des prophètes, c'est-à-dire des sahaba. Deuxièmement, le fait de connaître quelques difficultés parce que nous sommes attachés à notre religion, ça ne veut pas dire qu'Allah ne nous aime pas. Bil'aks, bien au contraire. Ça veut dire qu'Allah nous aime parce qu'on va être patient, on va être attristé, on va être atteint, pas physiquement mais moralement au moins, parce que par rapport à notre identité de musulman, c'est là une patience qui est noble. Donc à toute époque, et même à l'époque des meilleurs des hommes, les personnes qui étaient dans la fausseté avaient de la haine pour eux, pour les gens qui avaient la foi, que ce soit Sahab al-Ukhdoud, que ce soit notre prophète alayhi salatu wassalam, et Sahaba, que ce soit Moussa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, quelles que soient les époques. Donc ça nous conforte dans certaines situations que parfois nous vivons. Premièrement, on réalise que c'est une sunnah d'Allah. Deuxièmement, il y a des récompenses. Troisièmement, ça ne veut pas dire qu'Allah ne nous aime pas. Bien au contraire, Allah élève notre grade par cette patience. Et quatrième ou cinquièmement, peu importe, on réalise, on doit retenir que quel que soit, ça c'est un peu plus technique, mais on essaie de bien comprendre, quel que soit la nature de l'expression de cette haine et le kaïd, makr, quels que soient les plans que certains forment pour essayer d'atteindre l'islam, ça n'atteint jamais la religion. Ça n'affaiblit jamais la religion. Qui était le cœur de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si le cœur était touché, c'était la fin. Combien de fois le cœur était touché? À Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été victime de ses ennemis. Il a reçu une pierre dans le visage. Une dent Moubarak s'est cassée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam saignait du visage. À Taif, n'a-t-il pas été agressé verbalement et physiquement jusqu'à ce que le sang Moubarak coulait de ses pieds et que ses sandales collaient à ses pieds Moubarak tellement il y avait, le prophète avait saigné. Est-ce que son oncle Hamza n'a-t-il pas été assassiné de la pire des façons? Le prophète alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas connu des difficultés par rapport à son épouse Aïcha radiallahu anha de la part des munafiqin, le fameux récit hadith al-ifk? Le prophète alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas été ensorcelé par une personne qui, une dame qui lui avait donné un khair, inshallah? Le cœur de l'islam, le prophète sallam a été touché à plusieurs reprises. Est-ce que ça a ralenti les conversions à l'islam? Est-ce que ça a porté atteinte à l'islam? Aucunement. Donc on réalise que quelle que soit la nature des hostilités à notre époque, que les gens écrivent dans les journaux, que les gens fassent première page ou caricature ou des commentaires sur les réseaux sociaux où ils le disent en live, dans l'actualité ou dans les débats, ou qu'ils te le disent dans ta figure comme ils disent, tu le dis directement, ou que même il y a des atteintes physiques, qu'on soit persuadé que c'est une épreuve de la part d'Allah, mais qu'on soit également persuadé que l'islam ne sera jamais affaibli. Yuriduna yutfi'u nurallahi bi afwahihim. Ils veulent atténuer, je ne sais pas la traduction exacte, ils veulent atténuer la lumière d'Allah avec leurs paroles, ce qu'ils vont dire. وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ. Et Allah ne laissera jamais cette lumière s'atténuer, parce que Allah en est garant. Le Coran, Allah en est garant. Depuis que le Coran a été révélé, ça fait combien de temps, subhanallah? On est en quelle année là? 1400 quoi? 36, 37. On a 1437. Depuis combien de temps Iqra a été révélé? 1437, ça correspond à la Ahd de... Oui, Madani, la Hijra, l'immigration. Pour avoir la date de Iqra, il faut remonter moins combien d'années? Enfin, pas moins, plus combien d'années? 13 ans. Donc 1437 et 13, ça fait 1450. Oui ou non? À peu près 1450 années, Iqra a été révélé. Depuis que cela a été révélé jusqu'à maintenant, comment est-ce possible avec toute la technologie, avec... Vous voyez le nombre de personnes qui sont capables de frauder des papiers, des cartes d'identité, des permis, faire des faux billets, faire des fausses personnes aussi, des cœurs fraudés. Il y a tellement de fausseté, d'hypocrisie, tellement facile d'imiter des trucs. Personne n'a pu amener un exemplaire du Coran falsifié. Et ceux qui ont essayé, ça n'a pas marché. Parce que ce Coran est protégé par Allah. « Inna nahnu nazzalna dhikra » Qu'on soit rassuré, qu'on ne soit pas angoissé par tout ce qu'on voit, par tout ce qu'on entend. Et peut-être arrêter de regarder plein de choses aussi. Parce que tout ce qu'on entend à travers les médias, ce sont des informations travaillées, distillées, et on nous donne ce qu'on veut bien faire voir au monde. Maintenant, j'aime bien, je me rappelle les années terminales qu'on faisait la philosophie, c'est des choses qui nous apportent, qui sont très intéressantes. L'histoire de la... C'est l'heure, frère, Inch'Allah. L'histoire de la grotte avec Platon, lorsqu'il parle de personnes qui font des jeux d'ombre. Vous savez, c'est quoi des jeux d'ombre? On parle des ombres chinois, d'accord? Des jeux d'ombre. Javed se souvient? Philosophie? T'as fait terminale quoi? S? Oui, c'est 10 minutes philo par semaine, ça. Frère, Inch'Allah. Donc, il faisait que les tables de multiplication. Avec les jeux d'ombre, dans une caverne où l'homme ne voit, les gens qui y sont, c'est un cas de figure, ils ne voient pas le soleil, ils ne voient pas le monde extérieur. Et donc, on te fait croire que le monde, c'est ça. Ça se limite à ces jeux d'ombre et tout. Bien qu'ils te donnent une vision de la vie. Ce n'est pas la vision de la vie. Sors de cette caverne. Sors d'un fait noir, comme il dit. D'accord? Non, comme il dit, reste pas d'un fait noir. Ça, c'était Jean-Paul II qui avait dit. Hein. Reste pas. Enfin, il y a une parole intéressante. On interprète comme on peut. Reste pas dans le fait noir. Vois le monde, vois la vérité, vois la réalité, vois l'histoire glorieuse de notre religion, et vois la promesse divine, et on arrivera à relativiser. Faut pas croire qu'on vit la pire des époques, c'est terrible, on va tous mourir, on va tous être écrasés comme des paniniers. C'est pas vrai. Ce que les sahaba ont vécu, c'était 10 000 fois plus violent. C'était plus terrible ce qui s'est passé dans à toutes les époques, l'Empire Omeyyade, l'Empire Abbaside et l'Empire Ottoman un peu jusqu'au Gaoundé. Dans le monde entier, il y a eu des fitanes, des difficultés. Donc ce que nous vivons, ce n'est pas la pire des choses. Tout est sous contrôle. Sous contrôle de qui? Sous contrôle de notre Seigneur. Et ce sont là des épreuves. Vivons ces épreuves avec sérénité, patience, endurance, espoir de rétribution et désir de guider pour ces gens. Vous savez, autant ces personnes faisaient du mal au prophète, le prophète ne les détestait pas. C'est pas magnifique ça? Qui a tué Hamza? Wahshi. Qui lui a ordonné? Qui a payé Wahshi pour tuer Hamza? Hind. Quand on dit Hind, qu'est-ce qu'on doit dire maintenant après? Hein? Radiallahu anha. Quand on dit Wahshi, qu'est-ce qu'on doit dire après? Radiallahu anhu. Allahu Akbar. Ça c'est karam, ça c'est la beauté de notre religion. Cet homme, il a été payé par Hind pour aller sur le champ de bataille, mais lui c'est un Africain, Abyssinien si je ne me trompe pas. Confluent musulman et Quraysh, c'était pas son problème ça. Il n'était pas arabe, ça n'intéressait pas ce problème-là. Il a été payé, trouve Hamza et tue Hamza. Faut le transpercer avec sa lance. Il est resté assis, il attendait. Quand il a vu Hamza, il l'a tué dans le thorax, et Hind, quand il est décédé, Hind est venu à l'a éventré. Et dans certaines sources, parle même que Hamza radiallahu anhu a été mutilé, découpé les oreilles vraiment. Et le prophète a été très attristé. Ça l'a fait beaucoup de mal. Ça l'a beaucoup, beaucoup affecté parce que le prophète aimait beaucoup sa famille et il aimait Hamza radiallahu anhu. Parmi tous ces oncles, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient la ilaha illallah, Muhammad Rasulallah de leur cœur. Et Hamza en faisait partie. Et Hamza, c'était la fierté. La première grande fierté des musulmans. Après lui, il y avait qui? Il y a eu Umar ibn al-Khattab, des personnalités, des bonhommes. C'était vraiment des rijal, des hommes forts. Et donc, qu'est-ce qu'on disait là? Pourquoi on est parti avec Hamza? Excusez-moi, ramenez-moi. Hein? Oui, barakallah fik. Donc, Hamza, radiallahu anhu, comment le prophète était attristé par sa mort? Quelque temps après, je ne sais pas c'est combien d'années, je n'ai pas en tête la date exacte, Hind se convertit à l'islam, Wahshi se convertit à l'islam, le prophète ne les a jamais détestés pour leur personne. Le prophète a détesté ce qu'ils ont fait, mais pas les individus. Qui est cette personne qui s'est convertie dans les dernières années de l'islam et qui était pourtant un ennemi acharné de l'islam? Abu Sufyan. Et quand on dit Abu Sufyan, qu'est-ce qu'on doit dire maintenant? Radiallahu anhu. Il s'est converti juste avant Fath Makkah. Combien d'années donc depuis le début de l'islam et pendant presque 3 quarts, 75 à 80% de la période madani, il était ennemi de l'islam. Et après il s'est converti, le prophète l'a accepté immédiatement. Ça donne lien à d'autres histoires de la Sirat également où après une guerre, le prophète s'était marié avec Juwayriya, radiallahu anha, alors que c'était une tribu qui avait fait beaucoup de mal aux musulmans, beaucoup de coups bas pas des khutbas, des kubas, des kubas, beaucoup de ils ont trahi à plusieurs reprises les musulmans, et le prophète les mettait en garde. Il faut arrêter. Ils n'ont pas arrêté. Et le prophète, c'était le Banu Mustaliq, si je ne me trompe pas. Le prophète lance une offensive parce qu'il causait beaucoup de tort aux musulmans. On capture Juwayriya, entre autres, qui est la fille du chef de cette tribu. Elle se convertit à l'islam. Et toutes les personnes de sa famille qui étaient prisonniers de guerre. Ce qu'il y a dans un pays ou dans un monde où il n'y a pas de prisonniers de guerre, quand il y a une guerre, peut-être chez les bisounours. Mais dans le monde des humains, il faut arrêter de dire que l'islam, c'est la violence. Quelle que soit la civilisation, quand il y a des guerres, il y a, comment dire, dommages collatéraux, il y a des prisonniers. Le gars, il veut tuer Oussad, il dit, bon, c'est bon, ça ne va pas comme ça. Donc, tous les membres de la famille, il y avait plus de 100 personnes qui ont été immédiatement libérées, tout de suite. Quand les sahabas ont vu que le prophète s'est marié avec Juwayriya, la fille du chef des Banu Mustaliq, plus de 100 personnes de sa famille ont été tout de suite libérées. Alors que pour ces prisonniers, il y avait une rançon, donc ça représentait quelque chose. Mais pour eux, il y a eu la vérité dans le cœur d'une personne, et on ne peut pas accepter que ces gens sont devenus la belle famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas accepter qu'un membre de la belle famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit prisonnier. Donc, libération immédiate, sans haine, sans rancune, et la plupart se sont convertis à l'islam. C'est que le prophète ne détestait aucun être humain. Quand cette femme, on ne va pas dire trop de détails, elle a mis du poison. Alors avant ça même, l'abid qui avait ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah avait révélé al-ikhlas, al-falaq al-nas, les mu'awidat, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait avec ce sahir? Il a pardonné. Le prophète ne détestait pas les gens, ne se vengeait pas des personnes. Lorsque cette femme, cette fois-ci on revient à l'histoire, il avait mis un poison violent dans la viande qu'elle avait donnée au prophète. Le prophète a su c'était qui. Le prophète l'a pardonné. Mais comme un sahaba était mort après, là, la personne, elle s'est retrouvée face à ses responsabilités. Mais le prophète alayhi salat wa sallam ne détestait, subhanallah, ne détestait personne. Cette grandeur d'âme, on a besoin de l'intégrer. Même si tu as un voisin qui crache sur toi, qui dit des choses abominables sur la religion, ne le déteste jamais. Ne déteste jamais un être humain. Parce que c'est une créature d'Allah azza wa jal, et garde plutôt l'espoir de Hidayah. Un jour, peut-être qu'Allah va nous guider. Quel plus bel exemple que les Banu Thaqif qui ont insulté. On a dit tout à l'heure, frapper le prophète. Le prophète, quand il reçoit l'ange qui dit, est-ce qu'on les écrase entre ces deux montagnes? Le prophète, c'est pertinemment, s'il dit oui, ils sont tous des voisins, il dit non. J'ai été envoyé comme rahmatan lil alamin. Bénédiction pour les mondes. Pas pour détruire, pas pour vengeance, pour abadan, pas pour tuer, pas pour faire couler le sang. Pas comme ces gens, ils font à droite et à gauche. C'est pas pour ça que j'ai été envoyé, c'est pas ça ma mission. Il a demandé droit qu'Allah guide. Si eux, ils veulent pas, mais que leurs enfants et leurs enfants sont convertis à l'islam. Et Taif, c'est vraiment une spécificité dans le Hijaz, que Taif, les gens de Taif sont venus voir le prophète pour se convertir à l'islam. Il n'y a pas eu de bataille contre Taif. Si, quand il y a eu une bataille et que les ennemis se sont réfugiés dans Taif, Taif a été encerclé. Mais après, les musulmans sont repartis parce qu'Allah a mis dans le cœur du prophète que Taif ne doit pas être conquis à l'issue de cette bataille. Parce qu'il y avait un doua. Et ce doua devait être exaucé, que les gens de Taif obtiennent la guidée. Et ils ont obtenu la hidayah, ils sont venus demander pardon au prophète, ils se sont convertis, ils sont devenus des musulmans. Subhanallah. Donc dans les situations parfois de difficulté que nous vivons, on doit être capable de se projeter dans le passé, voir comment ça a été vécu, et aborder les difficultés avec sérénité, ne jamais détester notre prochain, avoir espoir de guider, qu'Allah donne la hidayah, si c'est pas eux, à leurs enfants, à leur entourage, et ainsi de suite, et que relativiser, ça c'est très important, et se dire que tout ça ce sont des épreuves, on est patient, on a le bon comportement, pas quelqu'un te dit quelque chose, tu vas l'insulter, tu vas tirer un couteau, tu vas dire, démesuré. Tout acte de vengeance, ce serait de toute façon démesuré. Être patient, endurant, espoir de rétribution dans l'au-delà et espoir de guider pour les personnes, et faisant en sorte que notre cœur ne soit jamais habité par un sentiment de haine pour quiconque. C'est là l'enseignement de notre Habib, sallallahu alayhi wa sallam. Ça va être à la pause de soir, Inch'Allah. On n'a pas pu compléter. Tabarakalladhi. Inch'Allah. Je ne sais pas combien de vendredis reste. Le Ramadan, c'est le, normalement le 7, hein, si je ne me trompe pas. Alors, donc là, on est le 20. Donc, on a encore le 27 et le 3. Sachant que le 3, il y a le Jalsa de la Madrasa al-Madina d'ici. Donc, on n'aura que la semaine prochaine. Donc, Inch'Allah, on a espoir que la semaine prochaine, on puisse compléter Tabarakalladhi. Et que l'ensemble de... Parce qu'après avoir complété, on avait l'intention de faire un petit récapitulatif des points, des grands points de Tabarakalladhi pour bien se rappeler qu'est-ce qu'on doit retenir. Donc ça, on gardera ça pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Et que semaine après semaine, les versets qu'on étudie, Inch'Allah, on les garde dans nos cœurs et qu'on puisse les mettre en application et que cela apporte un changement positif, Inch'Allah, dans notre vie. Et n'oublions pas, on ne se couche pas, on ne dort pas sans lire Tabarakalladhi. Ça, c'est un des objectifs de l'étude de cette sourate. Réaliser que c'est une sourate qui est exceptionnelle, qui intercédera pour nous, à condition de le lire tout le temps. Jamais s'endormir sans lire Tabarakalladhi biyadihil mulk. Ça prend 4 minutes ou 5 minutes. On doit essayer de le faire. On le met en pratique régulièrement. Qu'Allah nous accepte. Soumain tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alamin.